Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim, page 6, Daf Vav. Bonne écoute et bon limoud.
C'est pour cette raison que nous avons besoin du verset qui nous dit explicitement on ne trouvera pas chez toi. Car étant donné que sur ce Hametz, c'est vrai qu'on l'a gardé et on le garde en portant toute responsabilité s'il lui arrive quoi que ce soit. Mais si jamais il lui arrive quoi que ce soit, alors ce n'est qu'une perte d'argent. Et donc, ça va le fait que je le garde, ça entraîne une perte d'argent si je le perds. Or, quelque chose qui entraîne une perte d'argent n'est pas considéré comme étant une perte d'argent vraiment. Donc, en fait, nous ne considérons pas ce Hametz comme étant vraiment dans ma propriété. Et donc, puisque nous ne considérons pas ce Hametz comme étant vraiment dans ma propriété, alors j'aurais pu penser que j'ai le droit de le garder. C'est pour cela que le verset vient et nous dit « On ne trouvera pas chez toi de Hametz, même si tu as pris des responsabilités, même s'il n'est pas dans ta propriété, malgré cela, tu n'as pas le droit de le garder, étant donné que tu as pris les responsabilités sur ce Hametz. » Et là, les mandéamar kemamandamé, mais d'après celui qui a dit que quelque chose qui entraîne une perte d'argent, c'est considéré comme étant vraiment une perte d'argent. Et donc, en fait, puisqu'il a pris la responsabilité sur ce Hametz et qu'il lui arrive quoi que ce soit, alors ça va lui entraîner une perte d'argent, donc en fait c'est considéré comme s'il était un petit peu propriétaire sur ce Hametz. Alors c'est évident qu'on n'a pas le droit de le garder. Alors Loïmatse Lamali, pourquoi le verset a-t-il besoin de nous dire Loïmatse, on ne trouvera pas chez toi du Hametz? C'est évident qu'on n'a pas le droit de le garder. Alors Gmar nous répond, nous en avons besoin. Malgré cela, nous avons besoin de ce verset. Pourquoi? Sakadata Ramina Oil Vechite Adarbene, j'aurais pu penser dire que puisque s'il existe encore, c'est-à-dire si rien ne lui arrive à ce Hametz, alors je le rends tel quel, et donc, puisque c'est ainsi, la birchoteka est. Alors nous ne le considérons pas, ce Hametz, comme étant dans sa propriété, dans sa possession, et donc il n'y a pas d'interdit de le garder, même s'il a pris une responsabilité sur ce Hametz. Kamashwana, c'est ce que le verset vient nous apprendre, que bien que s'il le rend, bien que s'il n'arrive rien au Hametz, il le rend tel quel, et donc il ne le paye pas de sa poche, mais étant donné qu'il a pris une responsabilité sur ce Hametz, et que s'il lui arrive quelque chose, il doit le payer, alors c'est considéré comme étant, oui, un petit peu dans sa possession, et c'est pour cela qu'il n'a pas le droit de le garder. Et la Gemara continue maintenant et nous parle d'un autre sujet. C'est vrai qu'il y a un petit peu rapport avec ce que nous avons étudié plus haut, car plus haut nous avons vu que lorsque des soldats viennent en ville, alors il y a une obligation des habitants, sur les habitants, de nourrir ces soldats. C'est une obligation imposée par le roi. Alors ici aussi, nous allons parler d'une autre obligation qui est imposée par le roi, et qui s'appelle la Arnouna. La Arnouna, c'est un impôt qui était imposé par le roi d'un dixième de tout ce que possédaient les habitants de la ville. C'est-à-dire une personne, lorsqu'il avait des biens, etc., il devait donner un dixième de tous ses biens au roi. Et donc, parmi tous ses biens, il devait donner aussi un dixième de son troupeau au roi. Or, il y a une loi qui nous dit que quelqu'un qui a un troupeau en association avec un non-juif, alors il n'a pas d'obligation de prélever les premiers-nés de ce troupeau. Car il y a une loi qui nous dit que tous les premiers-nés qui naissent d'un troupeau, on doit les donner au Kohen. Or, si ce troupeau est en association avec un non-juif, c'est-à-dire la propriété de ce troupeau est en association avec un non-juif, alors on n'a pas besoin, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de donner les premiers-nés au Kohen. Et maintenant, la Gemara demande, Baumine Mirava, ils ont posé la question à Rava. Behemat Arnouna, une bête qui vient d'un troupeau sur lequel il y a une obligation de prélever la Arnouna. Alors, est-ce que Chayevet Bifrora ou En Chayevet Bifrora? Est-ce qu'on a l'obligation de donner les premiers-nés au Kohen ou pas? Car, étant donné qu'il y a une obligation de prélever de ce troupeau l'impôt et de le donner au roi, que nous considérons cette obligation comme une association avec le propriétaire de ce troupeau. Et donc, en fait, le roi et le propriétaire sont associés dans ce troupeau. Et donc, c'est considéré comme étant un troupeau qui est en association avec un propriétaire juif et non juif. Et donc, automatiquement, alors dans un cas pareil, on n'a pas d'obligation de prélever les premiers-nés. Ou peut-être que pas. Nous ne considérons pas ça comme étant une association, mais nous considérons ça comme étant une obligation du propriétaire juif de payer ses impôts. Et donc ce n'est pas une association, et donc il devra donc, oui, donner les premiers-nés au Kohen. La Gemara précise. Kol eicha de matze mesalek le bezuze. Chaque fois où s'il a la possibilité de payer ses impôts en payant en argent, c'est-à-dire il n'est pas obligé de donner le dixième de son troupeau, de donner des bêtes. Il peut payer en argent. Alors dans un cas pareil, lokami bayalan. Nous n'avons pas de doute. Pourquoi? Et dechayal, et c'est sûr qu'il est obligé de donner le premier-né. Pourquoi? Car étant donné qu'il a la possibilité de payer en argent, donc en fait, le roi n'est pas considéré comme étant un associé dans le troupeau, mais c'est une obligation du propriétaire juif de troupeau de payer ses impôts envers le roi. Mais nous ne considérons pas cela comme étant une association du roi et du propriétaire du troupeau. Kikami Bayalan, lorsque nous avons le doute, dans un cas où il ne peut se payer ses impôts avec de l'argent. Et donc il est obligé de donner le dixième de son troupeau, de donner des bêtes. Alors est-ce que nous considérons cela comme une association ou comme une obligation? Mais qu'en est-il? Azamal ou Rava leur a répondu, Petura, dans un cas pareil, elle est exempte, on est exempte de donner les premiers-nés au Kohen, car c'est considéré comme étant une association. La Gemara demande, Vatania, pourtant nous avons enseigné dans une Braïta Chayevet, qu'un troupeau dans lequel il y a l'obligation, duquel on a l'obligation de payer la Arnouna, les impôts au roi, alors on est obligé aussi de donner les premiers-nés au Kohen. La Gemara répond, Hatam là-bas, de Matem Misalek, c'est dans un cas où on peut payer les impôts avec de l'argent. Et Rava, lui, a parlé dans un cas où on ne peut pas payer les impôts avec de l'argent, on est obligé de donner des bêtes. Et Kadamre, il y en a qui disent, Amar Rava, Rava a dit, Behemat Arnouna, Ptura Mina Bechora. Une bête qui vient d'un troupeau de Arnouna, duquel on a l'obligation de payer les impôts au roi, alors elle est exempt, on est exempt aussi de donner les premiers-nés de ce troupeau au Kohen. Ve'afal Gav, de Matze Mesalekle. Et même s'il peut payer cet impôt avec de l'argent. Car pour l'instant, il n'a pas payé cet impôt avec de l'argent. Et donc le roi a une association avec le propriétaire de ce troupeau. Et donc c'est considéré comme étant un troupeau en association entre un juif et un non-juif. Et on est exempt de donner les premiers-nés au Kohen. Par contre, Issat Arnouna, une pâte de Arnouna, c'est-à-dire une pâte à pain, de laquelle on doit prélever un dixième pour donner au roi. Alors dans un cas pareil, Chayev et Bechala, on est obligé de prélever la Chala. Car il y a une loi qui nous dit que chaque pâte que l'on pétrit, une pâte à pain, à partir d'une certaine quantité, on doit prélever la Chala pour donner au Kohen. C'est un des prélèvements. Et donc maintenant, dans un cas, il y a une autre loi qui nous dit que si c'est une pâte qui appartient à un non-juif, on n'a pas besoin de prélever la chala. Et donc maintenant, dans un cas de Issat Arnouna, c'est une pâte qui est en possession et du juif et du non-juif, car il y a un dixième de la pâte qui appartient au roi, car on doit la donner au roi. Malgré cela, Chayev et Bechala, on est obligé de prélever la chala. Et nous ne considérons pas l'association du roi comme étant suffisant pour exempter cette pâte du prélèvement de la chala. Et même s'il ne peut payer ses impôts avec de l'argent. C'est-à-dire que le roi a une vraie association avec le propriétaire de cette pâte. Maïtama, quelle est la raison de cette différence entre un troupeau et une pâte? Pourquoi dans un troupeau nous disons que nous considérons oui l'association comme étant une association et dans une pâte nous ne considérons pas cette association? Alors Gemara répond, it bema it lekala. Sur les troupeaux, il y a des rumeurs. Et donc on sait très bien que un troupeau duquel on n'a pas encore prélevé les impôts, alors tout le monde est au courant. Et donc si les gens vont voir que cette personne-là ne donne pas le premier-né de son les premiers-nés de son troupeau au Kohen, tout le monde sait que c'est parce qu'il n'a pas encore payé les impôts. Et donc, ce troupeau est en association entre lui et le roi. Et donc, puisque c'est ainsi, c'est pour ça qu'il est exempt de donner le premier-né au Kohen. Par contre, Issa, sur une patte, l'et les kala. Il n'y a pas de rumeur. Et donc, les gens qui vont le voir ne savent pas que sur cette patte, il y a une obligation de payer les impôts et de donner un dixième au roi. Et donc, les gens vont penser que c'est une patte normal, et malgré cela, cette personne ne prélève pas la chala d'une pâte normale. Donc, ils vont commencer à le soupçonner. Alors, pour ne pas en arriver là, les sages ont décrété que sur une pâte, dans tous les cas, on devra prélever la chala. Bien que, mitzad adin, d'après la loi, alors, normalement, on ne devrait pas prélever la chala, car le roi est associé avec le propriétaire de la pâte dans la pâte, étant donné qu'il doit lui payer un dixième des impôts, mais pour ne pas qu'on en vienne à le soupçonner, alors les sages ont décrété qu'il devra, oui, prélever la chala. Alors, Rabbanan, nos sages nous ont enseigné. Un non-juif qui rentre dans la cour d'un juif pendant Pessah. Ou betseko beyado, et il a son pain dans sa main. En zakouk levaer. S'il y a des miettes de ce pain, ou un petit bout de ce pain qui tombe dans la cour du juif, le juif n'a pas besoin de détruire ce pain. Car ce pain ne lui appartient pas. Ifkido etzlo. Si le non-juif l'a laissé chez le juif pour que le juif le garde, et le juif a pris la responsabilité sur ce chametz, alors comme nous l'avons appris plus haut, zakouk levaer. Le juif doit, oui, le détruire, ce pain, étant donné qu'il a pris la responsabilité sur ce pain. Yired lo bait. Par contre, si il lui a spécifié un endroit au non-juif où déposer le pain, en zakouk levaer, il n'a pas besoin de le détruire. Chenema, comme il est dit, lo imatse, on ne le trouvera pas. Alors, Gemara demande, Maïkama, que voulons-nous nous apprendre avec ce verset? Amar Rav Papa nous dit, Arei Shakae, ce verset se rapporte sur ce que nous avons enseigné au début de la Braïta. Ben, Arikamar, c'est ainsi qu'il faut expliquer. If kido etzlo zakouk levaer. Si le non-juif a donné aux juifs ce pain à garder, alors il faut le détruire. Chez Neymar, comme il est dit, lo imatse, on ne trouvera pas en ta possession, étant donné que le juif a pris la responsabilité de garder ce chametz, c'est considéré comme étant, oui, un peu en sa possession, et c'est pour cela qu'il doit le détruire. Rav Ashi nous dit, le olam a se fait akae. Toujours, on peut expliquer qu'en fait, ça ne se rapporte pas sur le début de la braïta, mais sur la fin de la braïta. Ve'achikamar, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Yichet lo ba'it, s'il lui a spécifié une pièce, un endroit, une maison, pour déposer son chametz au non-juif, alors, Enzakouk Lever, on n'a pas besoin de le détruire. Chez Nema, comme il est dit, Loïmatse bevatechem, on ne trouvera pas dans vos maisons. Veha, lavdideu. Et ça, ce n'est pas sa maison. Car étant donné qu'il a spécifié au non-juif une pièce où déposer son chametz, c'est considéré comme s'il a donné cette pièce au non-juif. Et donc, le chametz n'est pas dans sa maison. Et donc, puisque le chametz n'est pas dans sa maison, il n'a pas d'obligation de le détruire. Des nori, car le non-juif, qui kameayel, lorsqu'il rentre dans cette pièce, le beta de nafshe kameayel, c'est dans sa pièce à lui qu'il rentre. C'est-à-dire, c'est dans la pièce du non-juif, et pas dans la pièce du juif, étant donné que le juif lui a donné cette pièce pour y déposer son chametz. Et donc, étant donné que c'est considéré comme étant une pièce appartenant au non-juif, il peut y faire ce qu'il veut. Alors, ma demande, les membres, allons-nous dire d'ici, des skirut kanya, que le fait de louer un endroit, alors ça nous acquiert l'endroit entièrement, comme nous voyons ici que le non-juif loue cette pièce pour y déposer le chametz, en nous considérons que le non-juif a acquis cette pièce, et il a le droit d'y faire ce qu'il veut et d'y déposer le chametz. Maintenant, pourtant nous avons appris dans une Mishnah, hein, il y a une loi qui nous dit qu'on n'a pas le droit de louer des maisons aux non-juifs dans la terre d'Israël. Et av bimkom shamru leaskir, et même dans les endroits où il est dit, il y a certains endroits où il est permis, il est dit qu'on a, oui, le droit de louer des maisons aux non-juifs, l'olébédirambou, ce n'est pas pour y vivre qu'on a dit, c'est-à-dire on ne loue pas des appartements. Pourquoi? Car les non-juifs, ils font rentrer des idoles. Et donc on n'a pas le droit de faire rentrer des idoles dans les maisons des juifs, c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de louer des maisons aux non-juifs. Et si tu penses que le fait de louer, alors ça acquiert l'objet qui est loué ou le bien qui est loué, et donc automatiquement dans la location d'une maison, alors lorsqu'on loue une maison à un non-juif, alors le non-juif en fait acquiert cette maison, alors qui kamaï, les bêtes de neuf chez kamaï, alors s'il y fait rentrer une idole, c'est dans sa maison à lui qu'il fait rentrer cette idole. Et quel interdit y a-t-il à faire rentrer une idole dans sa propre maison? C'est-à-dire quel interdit y a-t-il pour le juif à ce que le non-juif fasse rentrer une idole dans sa propre maison? Alors, et donc nous voyons donc d'ici que malgré cela, il est dit qu'il est interdit de louer une maison à un non-juif. Donc nous voyons en fait que la location, ce n'est pas considéré comme étant comme lorsqu'on acquit la chose, et c'est pour cela qu'on n'a pas le droit de louer une maison à un non-juif. Et donc il en devrait en être de même pour Pessah. Lorsqu'on loue la maison à un non-juif, alors le non-juif n'a pas acquis cette maison ou cette pièce, et donc il n'aura pas le droit de faire d'y faire entrer du Hametz. Alors pourquoi disons-nous malgré cela qu'on a oui, que le non-juif a oui le droit d'y faire entrer du Hametz? Rangman nous répond, Shaneacha, ici c'est différent. De'avke rachamana, car la Torah a utilisé Belashon loimatse, le langage loimatse, on ne trouvera pas dans ta possession. Et de là nous apprenons Mashe matsui be'adecha, ce qui se trouve sous ta main, et donc yatsaze sheno matsui be'adecha. Et donc ça vient nous exclure le cas d'une location qui ne se trouve pas sous sa main, car étant donné qu'il a loué cette pièce au non-juif, alors c'est vrai que le non-juif n'a pas acquis cette pièce, mais cette pièce, étant donné qu'il a loué au non-juif, elle ne se trouve pas sous la main du propriétaire juif. Et donc, c'est pas considéré comme étant dans sa possession à propos du Hametz de Pessah. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Hamotze Hametz bebeto beyom tov. Quelqu'un qui trouve du Hametz dans sa maison pendant Yom Tov, pendant le jour de fête, kofé alav et akli. Il renverse dessus un ustensile. C'est-à-dire, afin de le cacher, car il n'a pas la possibilité de la détruire pendant la fête. On ne peut le brûler pendant la fête, et donc il devra attendre les jours de demi-fête, ou après Pessah. Amar Rava, Rava nous dit, Im shel ekdeshu, si ce morceau de Hametz qu'il a trouvé chez lui, c'est un morceau de Hametz de Ekdesh qui a été sanctifié, alors, et noter qu'on n'a pas besoin de renverser dessus un ustensile pour le cacher. Maïtama, pour quelle raison? Mivdal b'dilemine, les gens se séparent tout seuls de lui, c'est-à-dire étant donné que les gens savent que ce morceau de Hametz, c'est un morceau de Ekdesh, alors les gens automatiquement ne vont pas s'approcher, il n'y a pas de crainte que l'on vienne à le manger. Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav, et Rav Yehuda a dit au nom de Rav, Chemtso shel Nochi, du Hametz d'un non-juif que l'on garde chez soi sans responsabilité, et donc qu'on a le droit de le garder, malgré ça, Oselo Mechitza Asarat Fachim, on doit faire une séparation entre ce Hametz et nous, une séparation d'une hauteur de au moins 10 Tfachim, afin de se séparer qu'on n'en vienne pas à le manger. Mishum Eker, pour faire une différence. Vim shel Ekdeshu, mais si ce Hametz et du Hametz de Ekdesh, et qu'on le garde pour le temple, et notre Tzarich. On n'a pas besoin de faire cette séparation. Maïtama, pourquoi? Mivdal b'dile incheminé. Les gens se séparent tout seuls du Hametz, des choses qui sont sanctifiées, et il n'y a pas à craindre qu'on en vienne à en manger. Ve'amar Rav Yehuda Amar Rav. Et Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Hamefaresh v'hayotze b'shayara. Quelqu'un qui part en voyage par la mer, ou quelqu'un qui sort avec une caravane, c'est-à-dire quelqu'un qui entreprend un long voyage. Kodem shloshim yom, avant 30 jours avant Pessah. Alors en zako klever, il n'a pas besoin de détruire le Hametz qu'il a dans sa possession. Tor shloshim yom, mais si c'est pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, zako klever, il a besoin de détruire le Hametz qu'il a dans sa possession. Amar Abaye, Abaye nous dit, Hadamar tor shloshim yom, et cette loi que nous avons dit que pendant les 30 jours, s'il entreprend son voyage pendant les 30 jours qui précèdent Pessah, Zakouk Levaïr, il doit détruire le Hametz qu'il a dans sa possession. Le Amran est lâché d'Ato Larzor. Cette loi n'a été dite seulement s'il a l'intention de revenir pendant la fête. Aval en d'Ato Larzor, mais s'il n'a pas l'intention de revenir pendant la fête, en Zakouk Levaïr, même pendant ces 30 jours, s'il entreprend son voyage pendant ces 30 jours et qu'il a l'intention de revenir après la fête, il n'a pas besoin de détruire le Hametz qu'il a dans sa possession. Amar le Rav, alors Rav nous dit, Veida Ato Larzor, mais s'il a l'intention de revenir pendant la fête, Avelomi Rosh Hashanah Nami, même s'il commence son voyage pendant à l'époque de Rosh Hashanah, Zakouk Levaïr, il doit le détruire, car il va revenir pendant Pessah, il va ouvrir la porte de chez soi, et il va trouver du Hametz chez lui à la maison. C'est sûr que c'est interdit, et c'est sûr que dans un cas pareil, il doit détruire le Hametz. Et là, Amar Rav, alors Rav a dit, Hadamart Kodem Shloshim Yom en Zakouk Levaïr, cette loi-là que nous avons dit que s'il entreprend le voyage 30 jours avant Pessah, il n'a pas besoin de le détruire. Loi Amran et la chaîne d'Ato Larzor. Nous avons dit cette loi-là que s'il n'a pas l'intention de revenir pendant la fête. Aval d'Ato Larzor, mais s'il a l'intention de revenir pendant la fête, Afilum Mirosh Hashanah, même s'il entreprend son voyage depuis l'époque de Rosh Hashanah, Zakouk Levaïr, il doit détruire le Hametz qu'il a en sa possession. C'est-à-dire, en fait, ici, il y a une discussion entre Abaye et Rava. D'après Abaye, s'il entreprend un voyage à 30 jours avant la fête, on n'a pas besoin de détruire du tout le Hametz, même s'il a l'intention de revenir. S'il entreprend le voyage moins de 30 jours avant la fête, alors ça dépend. S'il a l'intention de revenir pendant la fête, il doit le détruire. Sinon, non. Par contre, d'après Rava, c'est totalement le contraire. S'il entreprend un voyage moins de 30 jours avant la fête, alors il doit détruire le Hametz. Et s'il entreprend plus de 30 jours avant la fête, alors ça dépend. S'il a l'intention de revenir pendant la fête, il doit le détruire. S'il n'a pas l'intention de revenir pendant la fête, alors il n'est pas obligé de le détruire. Et la Gemara nous dit « Vaz da Rava l'état armé ». Et Rava suit son raisonnement. « Dama Rava » car Rava a dit « Aose beto osar » quelqu'un qui fait de sa maison une grange. C'est-à-dire, il met par exemple des fruits là-bas, et en dessous de ces fruits, il y a du chamet. Alors, si c'est kodem shloshim yom, si c'est avant 30 jours qui précède la fête, il n'y a pas besoin de détruire le chamet qui se trouve là-bas, car nous considérerons ce chamet en mettant du chamet sur lequel est tombé un éboulement, et il n'y a pas besoin de le détruire. Mais, si il fait de sa maison une grange tor shloshim yom pendant les 30 jours qui précèdent la fête, Zakok Lever, alors il devra, oui, détruire le Chamet qui se trouve sous ces fruits qu'il veut déposer là-bas, et car nous ne considérons pas ce Chamet comme étant un Chamet sur lequel est tombé un éboulement, car il sait qu'il y a là-bas du Chamet, et donc il devra le détruire. Vekodesh le Shimne Nami, et même ce que nous avons dit que s'il fait de sa maison une grange avant les 30 jours qui précèdent la fête, là, moi, nous avons dit qu'il, nous n'avons pas dit cette loi-là qu'il n'a pas l'obligation de détruire le Chamet, et là, chez Enda Atolifanoto, seulement s'il n'a pas l'intention de dégager cette grange pendant la fête. Avalda Atolifanoto, mais s'il a l'intention de dégager cette grange pendant la fête, Afilo Kodem Joshimion, même si il fait de sa maison une grange avant les 30 jours qui précèdent la fête, Namizako Glevaï, il a aussi une obligation de détruire le Chametz. Alors la Gemara nous demande maintenant, Hanesh Toshimion, ces 30 jours que nous avons vus deux fois. La première fois à propos de quelqu'un qui part en voyage, et la seconde fois à propos de quelqu'un qui fait de sa maison une grange. Mai avid tayu, qu'en est-il? C'est-à-dire d'où vient, quelle est la source de ces 30 jours? Agma nous dit que de Tanya, comme nous avons enseigné dans une braïta, shualim bedorshim b'ilchot haPesach, on pose des questions et on étudie les lois de Pesach, kodem haPesach, avant la fête de Pesach, shloshim yom, 30 jours. Rabbi Shimon ben Gamliel omer, Rabbi Shimon ben Gamliel nous dit, Shte Shabbatot, deux semaines. Et donc, de même qu'on commence à étudier les lois de Pessah 30 jours avant la fête, ça veut dire que déjà 30 jours avant la fête, il y a déjà un rapport avec la fête. Donc, c'est pour cela que celui qui part en voyage, etc., les lois que nous avons vues plus haut. La Gemara demande, Maïtahama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama qui nous dit qu'on s'y prend déjà 30 jours à l'avance?
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante. Dava Vamudbet. Sheare Moshe Omed Be Pesarishon. Car Moshe se tenait au moment de Pesarishon, de la première fête de Pesar, ou Mazir à la Pesarcheni, et avertissait les Ben Israël, et les prévenait, et leur disait les lois de Pesarcheni, du second Pesar. C'est-à-dire quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, pour les raisons qui sont citées dans la Torah, n'a pas pu amener son sacrifice de Pessah au moment de Pessah Rishon, au moment de la fête de Pessah, alors il peut se rattraper au moment de Pessah Sheni un mois après. Chez Nehema, comme il est dit, Ve'yazo Bene Israël ata Pessah Bemoado, et les Bene Israël feront le sacrifice de Pessah en son temps. Vektiv, il est dit à ce moment-là, Vayi Anashim Asher Ayut Temeim la Nefesh. Et voici que des hommes étaient impurs, car ils avaient touché des corps mort. Donc nous voyons d'ici que au moment de Pessah Rishon, Moshe Rabbeinu prévenait déjà les lois de Pessah Sheni qui étaient un mois plus tard. Donc nous voyons que nous commençons à parler des lois d'une fête 30 jours avant. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Omer lecha, et Rabbi Shimon ben Gamliel te dit, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Aïde d'Aïr et Bémi le dépistera, puisque Moshe Rabbeinu était occupé et parlait des lois de Pessah, Masik leo le kol mi le dépistera. Il a dit toutes les lois de Pessah, c'est-à-dire les lois de premier Pessah et les lois du second Pessah, pour quelqu'un qui, pour une des raisons qui est écrite dans la Torah, n'a pas pu amener son sacrifice au moment du premier Pessah. On me demande, Maïtama de Rabban Shimon ben Gamliel, quelle est la raison de Rabban Shimon ben Gamliel? C'est-à-dire pourquoi lui pense qu'on commence à étudier les lois que deux semaines avant? Alors il nous dit, Share Moshe Omed Berosh Achodesh, car Moshe se tenait au moment de Rosh Chodesh, c'est-à-dire le premier du mois, au Mazir à la Pessah, et avertissait les Bnei Israël des lois de Pessah, c'est-à-dire 14 jours avant. Chez Nehemar, comme il est dit, HaChodesh Azeh Lachem Rosh Chodashim, et ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Vektiv, et il écrit dans ce même sujet, Daberu El Kol Adat Israël, parlait à toute l'assemblée d'Israël, les morts, en disant, Be'azor LaChodesh Azeh, au 10 de ce mois-ci, Vekru Lahem Ishse Lebetavot, ils prendront chacun un agneau dans la famille de ses pères. Donc nous voyons ici que Moshe Rabbeinu se tenait apparemment au début du mois et avertissait les bénis Israël des lois de Pessah qui se déroulaient le 14, donc 14 jours avant. Alors Agma demande, Mimaï de Bereshia Chekae, qui nous dit qu'il se tenait au début du mois, le premier du mois, Dilma Barba Beyache ou Bechamisha Beyache, peut-être c'était le 4 du mois ou le 5 du mois, car dans le verset il est dit, ce mois-ci, il sera le premier des mois. Mais on ne dit pas quelle date il était dans le mois quand Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Alors Rabba Bar Shimi a dit au nom de Ravina, nous l'apprenons d'ailleurs. Meacha, nous l'apprenons d'ici. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai. Et Hashem a parlé à Moshe dans le désert du Sinai. Bashana Hashenit, la seconde année. Bachodesh Arishon, le premier mois. Vektiv, et il écrit dans ce même sujet. Et les béné Israël feront le sacrifice de Pessah en son temps. Donc nous voyons que Moshe, à la seconde année, au premier mois de la seconde année, avertissait les béné Israël et prévenait et leur enseignait les lois du sacrifice de Pessah. Alors Agma demande à Hanami, ici aussi, Mimaï de Bereshia Hakai, qui nous dit qu'il se tenait au début du mois. Dilma Barba Beyacha ou Bechamisha Beyacha, peut-être c'était le 4 du mois ou le 5 du mois quand il se tenait. Qui nous dit que c'était le début du mois? Il n'est pas écrit dans le verset que c'était le premier du mois. Azamaram Nachman Varitrak, Rab Nachman Varitrak nous dit, nous l'apprenons par un Gzera Shava. Atia Midbar Midbar, nous l'apprenons car il écrit deux fois le mot Midbar. Il est écrit Ktivacha, il est écrit ici, Bemidbar Sinai, dans le désert du Sinai. Vektivatam, il est écrit là-bas dans un autre verset. Vaidaber Hashem el Moshe Bemidbar Sinai. Et Hashem a parlé à Moshe dans le désert du Sinai. Beoel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad Lachodesh, le premier du mois, Hasheni du second mois. Et donc nous voyons, nous apprenons de là. Malehalan, de même que plus loin, c'est-à-dire dans le verset que nous venons de rapporter, Be'rosh Chodesh, Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe, c'était à Rosh Chodesh le premier du mois, Afkan, de même ici, chez nous, c'est-à-dire dans notre verset à nous, où il est aussi utilisé le mot Midbar dans le désert, Be'rosh Chodesh, nous apprenons que Akadosh Baruch Hu a parlé à Moshe le premier du mois. Et donc en fait, les deux versets que nous avons cités, les deux ont été dits à Rosh Chodesh. Le premier verset que nous avons cité, qui est dans Bamidbar, Tet, dans le 9e chapitre de Bamidbar, a été dit le premier du mois de Nissan. Et le second verset que nous avons cité, qui a été dit dans Bamidbar Aleph, dans le premier chapitre du mois premier chapitre de Bamidbar, lui a été dit au premier du mois de Iyar, c'est-à-dire au premier du second mois. Alors l'Agma demande, Vinichtov Bereisha de Chodesh Rishon, que l'on écrive d'abord dans le premier chapitre les versets qui ont été dits au premier mois et dans les chapitres qui suivent les versets qui ont été dits au second mois. C'est-à-dire qu'en fait, ici il s'avère que les versets qui sont dits dans Bamidbar, dans le 9e chapitre de Bamidbar, ce sont les versets de Chodesh Nissan, du premier mois de l'année. Et les versets qui sont dits dans le premier chapitre, c'est-à-dire avant ces versets, ce sont les versets qui sont dits au second mois de l'année, au mois de Iyar. Et alors l'Agma demande, comment cela se fait-il? Pourquoi les versets, les choses qui ont été dites au second mois de l'année, sont citées dans la Torah en premier? Azamar Rav Menashe Bar Tachlifa Mishmei de Rav, Rav Menashe Bar Tachlifa dit au nom de Rav, Zot Omeret, de là cela veut dire, de là nous apprenons, El Mugdam ou Meuchar Batorah. Il n'y a pas d'ordre dans la Torah, c'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent être citées en premier ou en dernier, bien qu'elles ont été dites en dernier ou en premier. Amarav Papa et Rav Papa nous dit, Lo Amran et la Betrinale. Cette règle-là qui nous dit qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, c'est qu'à propos de deux sujets, comme ce que nous venons d'apprendre. Un sujet dans le 9e chapitre de Bamidbar et un sujet dans le 1er chapitre de Bamidbar. Aval Bechadinana, mais lorsque c'est dans un seul et même sujet, Maïde Mugdam Mugdam, ce qui est cité en premier, c'est ce qui a été dit en premier. Et ce qui est cité en dernier, c'est ce qui a été dit en dernier. Dès l'Otemari, car si nous ne disons pas une chose pareille, nous avons des règles qui nous disent que klal ou prat, lorsqu'il y a dans la Torah un verset qui nous, d'abord il nous cite une règle générale et après un cas particulier. Alors nous avons une règle qui nous dit que dans un cas pareil, en bachlal el amasheba prat, que n'est contenu dans le cas général que le cas particulier. Ça c'est une façon d'étudier. Donc, alors l'Agma nous dit peut-être que Dilma, peut-être, que ce n'est pas une règle générale suivie d'un cas particulier, mais un cas particulier suivi d'une règle générale. Car si nous disons qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, donc en fait, c'est vrai que nous voyons devant nos yeux que dans le verset est cité d'abord la règle générale et après le cas particulier. Mais en fait, Peut-être que c'est un cas particulier suivi d'une règle générale, on ne sait pas, puisqu'on ne suit pas l'ordre. Mais tout, et de plus, l'autre règle qui nous dit que lorsque dans la Torah est cité un prat ou klal, un cas particulier suivi d'une règle générale, alors nous disons « Nessa klal mosef ala prat », que la règle générale, en fait, rajoute sur le cas particulier. Nous disons que n'est inclus dans cette Torah pas seulement le cas particulier, mais tout ce qui est inclus dans la règle générale. Alors, dilma, klal ou prat, ou peut-être qu'en fait, ce n'est pas un cas particulier suivi d'une règle générale, mais une règle générale suivie d'un cas particulier, et donc nous ne pouvons pas apprendre. Et donc, c'est pour cela, de là, Rav Papa nous prouve que lorsque c'est dans un seul et même sujet, alors nous disons oui qu'il y a un ordre, afin de pouvoir suivre les règles d'étude de la Torah. Alors, la Gemara demande, et ici, si c'est ainsi, « Afilu betreinian enami » Mais à propos de deux sujets, nous devrions dire une chose pareille, qu'il y a un ordre. Et anicha le mande amar klal uprat amerukhakim ze mize endanin oto. Je peux comprendre d'après celui qui dit que lorsqu'il y a une règle générale suivie d'un cas particulier qui sont éloignés l'un de l'autre, même s'ils ont ils parlent de la même chose, mais ils sont éloignés l'un de l'autre, alors on ne peut faire une étude. Alors si c'est ainsi, je peux comprendre pourquoi on ne peut faire une étude, car il n'y a pas d'ordre. Et donc étant donné qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, ça veut dire que c'est obligatoire qu'ils sont dans deux sujets. Et donc en fait, ils sont dans deux sujets. Donc en fait, nous ne savons pas l'ordre dans lequel ont été dits ces sujets, et donc nous ne pouvons considérer cela comme étant une règle générale suivie d'un cas particulier, car c'est peut-être un cas particulier suivi d'une règle générale. Et donc, endaninoto, on ne l'étudie pas, bichlal uprat, avec la règle d'une règle générale suivie d'un cas particulier. Chapir, alors c'est compréhensible. Elle a l'émandé à Mardani, mais d'après celui à qui a dit que même lorsque la règle générale et le cas particulier sont éloignés l'un de l'autre, alors Maïka les mémar, qu'avons-nous à dire? Car s'ils sont éloignés dans l'un de l'autre, alors même si apparemment, même s'ils sont dans deux sujets, nous pouvons étudier de cette règle qui a été dit, d'une règle générale qui est suivie d'un cas particulier. Et donc à ce moment-là, nous avons un problème qui nous dit que c'est une règle générale suivie d'un cas particulier, étant donné qu'il n'y a pas d'ordre, c'est peut-être un cas particulier suivi d'une règle générale. Agma nous dit, afilo le mande amardanim, même d'après celui qui nous dit que nous étudions, oui, une règle générale et un cas particulier qui sont éloignés l'un de l'autre, han emile bechadinia, ce n'est le cas que lorsque la règle générale et le cas particulier sont dans un seul et même sujet, c'est-à-dire qu'ils sont éloignés l'un de l'autre, mais ils restent dans le même sujet. Aval betreinyané, mais s'ils sont dans deux sujets différents, endanim, on ne peut étudier l'un de l'autre, car on peut penser peut-être qu'en fait ce n'est pas une règle générale suivie d'un cas particulier, mais un cas particulier suivi d'une règle générale, car il n'y a pas d'ordre. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Habodek, celui qui vérifie le Hametz chez lui à la maison, comme nous l'avons enseigné la veille du 14 au soir, Sarir Sheyevatel, il doit aussi dans son cœur annuler tout Hametz qu'il a dans sa possession et le considérer comme de la poussière. Et donc comme ça, même s'il lui reste du Hametz chez lui à la maison, étant donné qu'il le considère comme de la poussière, il ne transgresse pas d'interdit. Alors Gma demande Maïtama, pour quelle raison doit-il l'annuler? Inima Mishum Pirurim, étant donné qu'il a vérifié dans toute sa maison qu'il n'a plus de Hametz. Alors c'est sûr qu'il n'en a plus, alors pourquoi doit-il quand même l'annuler? Alors si nous disons que parce que nous craignons qu'il reste des miettes chez lui à la maison, alors Hashiva, elles ne sont pas importantes, et puisque ce n'est pas important, alors on ne transgresse pas d'interdit sur le fait de posséder des miettes. Vechitema, et si tu veux me dire qu'Evan de Mintarleo Agavete, puisqu'il les garde en même temps qu'il garde sa maison, Hashiva, alors ça leur donne une importance, étant donné qu'il les garde, Vatania. Pourtant nous avons enseigné dans une braïta. Sofete enim, la fin de la récolte des dates, qui est dans son champ. Et lui, il garde son champ à cause des raisins qu'il y a dans son champ, à cause de la récolte de raisins, mais pas à cause de la fin de récolte des dattes. Ou alors, sauf un avim, ou alors la fin de la récolte des raisins qui reste dans son champ, il garde son champ pour protéger la récolte des concombres et des courges. Alors, on vérifie. Bisman shebala bait makpid alehem. Si le propriétaire fait attention sur les fins de récolte, c'est-à-dire la fin de récolte de figues et la fin de récolte de raisins, hein, alors asurim mishum gezel, on n'a pas le droit de les prendre, et celui qui les prend transgresse l'interdit de gezel, de voler. Vechayavim bemaaser, et le propriétaire, s'il veut les manger, il est obligé d'en prélever la dîme. Bizman shen balabait makpidalem, mais si le propriétaire ne fait pas attention sur ses fins de récolte, c'est-à-dire pour lui, il les a abandonnés, alors mutarim mishum gezel, on a le droit de les prendre sans transgresser l'interdit de voler, étant donné que le propriétaire les a abandonnés, upturim mima aser, et puisque le propriétaire les a abandonnés, Alors on est exempt, celui qui les mange, d'en prélever la dîme. Donc nous voyons d'ici que même quelqu'un qui garde son champ, qui garde son champ pour, par exemple, pour la récolte de raisins, et il y a dans son champ la fin de la récolte des figues, malgré cela, s'il ne fait pas attention à la fin de la récolte des figues, c'est considéré comme s'il les a abandonnés complètement, et on a le droit de les prendre, et celui qui les prend n'a pas besoin d'en prélever les dîmes, car il se considère comme étant complètement abandonné, bien que le propriétaire les garde. Donc il en est de même des miettes. C'est vrai que le propriétaire garde sa maison, mais étant donné que les miettes ne sont pas importantes à ses yeux, et qu'il les abandonne, alors elles ne sont pas considérées comme étant à lui. Et donc, de nouveau revient la question, pourquoi doit-il annuler le hametz dans son cœur? Rangman nous répond, Amarab, Rava nous dit, Gzera, Shema, Imsa, Gluska, Yafa, Veda, Ateilouye. On craint que pendant la fête, il trouve un beau gâteau, et que ce gâteau soit important à ses yeux. Et donc, puisque c'est ainsi, alors on craint par exemple que la vérification ait mal été faite, et puisqu'elle a mal été faite, alors il va trouver un beau gâteau, et il va être important à ses yeux, et du moment qu'il lui donne de l'importance, alors maintenant, il transgresse l'interdit de posséder du hametz à Pessah. Alors l'Agmara nous demande, alors l'Agmara nous dit que lorsqu'il la trouve, il a qu'à l'annuler. Pourquoi on est obligé d'annuler le hametz dans son cœur au moment où on vérifie le hametz? Qu'on l'annule au moment où on le trouve pendant la fête. L'Agmara nous dit, Dilma mashkaratle les batari soit. Peut-être il va trouver ce beau gâteau après le moment où il est interdit de posséder du hametz. Et donc, velat bishut ekaime. Et donc, il n'est pas dans sa possession. C'est-à-dire, nous considérons ce hametz comme étant pas dans sa possession. Velom matem ifi. Donc, puisqu'il n'est pas en sa possession, il ne peut l'annuler. D'amar Rabbi Lazar, car Rabbi Lazar a dit, shne dvarim enam birshuto shel adam. Deux choses ne sont pas dans la possession d'un homme. Vasana katuv keilu birshuto. Et le verset les a considérés comme si c'était oui en sa possession pour pouvoir transgresser l'interdit. Et c'est quoi ces deux choses? Veluen, les voici. Bor Birshut Arabim, un puits dans le domaine public, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait creusé un puits dans le domaine public. Alors c'est pas dans sa possession puisque c'est dans le domaine public, mais malgré cela, s'il y a, par exemple, quelqu'un qui est endommagé, quelqu'un qui s'endommage à cause de ce puits, alors il devra payer les dommages qu'il a causés. Bien que ce n'est pas à lui, le verset l'a considéré comme étant oui dans sa possession. Et la deuxième chose, c'est Hamet Mishesh Shaot Ulmala. Du hametz à partir de la sixième heure et à la veille de Pessah, étant donné qu'il est interdit d'en posséder, alors la Torah nous a dit que le hametz n'est plus dans la possession d'un homme, de l'homme, mais le verset le considère oui dans sa possession pour transgresser l'interdit de posséder du hametz. C'est-à-dire, pour transgresser l'interdit, il est oui dans sa possession. Mais pour tout le reste, il n'est pas dans sa possession. Et donc, puisque pour tout le reste, il n'est pas dans sa possession, il ne peut l'annuler. Alors la Gemara nous demande, bon, alors nous avons compris qu'il faut annuler le hametz avant que le hametz ne soit interdit. Mais alors si c'est ainsi, pourquoi l'annuler au moment où on vérifie le hametz, c'est-à-dire la veille du 14? Beniftele be'arba, beniftele be'chamesh, annulons-le à la quatrième heure ou à la cinquième heure du 14. Pourquoi la veille? La Gemara nous dit, kevan de lazman isurau, belazman biurau, dilma pasha velom evatele. Étant donné que ce n'est pas le moment où commence l'interdit. Et ce n'est pas le moment où on doit l'éliminer. Dilma Pacha, peut-être qu'il va oublier, et il va oublier de l'annuler. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il n'y a rien qui lui rappelle d'annuler le hametz, alors on craint qu'il oublie de l'annuler, et qu'après vienne le moment où le hametz est interdit, et à ce moment-là, il va se rappeler qu'il a oublié d'annuler le hametz, mais il ne pourra plus l'annuler, car c'est après le moment de l'interdit. Donc c'est pour cela que la Gemara nous dit qu'il faut l'annuler au moment où on vérifie le hametz. Nous avons fini ici le shiur de Davav.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.